Journal d'un écrivain, 1873. Chapitre 1. Introduction. Le 20 décembre, j'apprenais que tout était arrangé et que je devenais le directeur du Citoyen, Grajdanine. Cet événement extraordinaire, extraordinaire pour moi, se produisait de façon assez simple. Ce même 20 décembre, je venais justement de lire un article du bulletin de Moscou sur le mariage de l'empereur de Chine. L'article me fit une forte impression. Cet événement mirifique, et bien entendu très complexe, avait eu lieu aussi de la façon la plus simple. Tout en avait été prévu, jusqu'au moindre détail, près de 1000 ans auparavant, dans les 200 volumes du Livre des cérémonies. En comparant l'événement important qui se passait en Chine avec ma nomination de directeur du journal, je me sentis tout à coup fort ingrat envers les institutions de mon pays, bien que l'autorisation m'eût été accordée sans difficulté par le gouvernement. Je pensais que pour nous, j'entends pour le prince Metchersky et pour moi, il eût été 100 fois préférable d'éditer Le Citoyen en Chine qu'en Russie. Là-bas, tout est si clair. Nous nous présenterions, le prince et moi, au jour fixé, à la chancellerie principale de l'imprimerie. Nous prosternant, nous frapperions du front le parquet que nous lécherions ensuite. Puis, nous remettant sur pied, nous lèverions un index chacun, tout en baissant respectueusement la tête. Il est hors de doute que le directeur de la chancellerie affecterait de ne pas plus prendre garde à nous qu'à des mouches. Mais alors surgirait le troisième adjoint de son troisième secrétaire, qui, tenant à la main le diplôme de ma nomination de directeur, nous réciterait d'une voix noble, mais suave, la locution de circonstance extraite du Livre des cérémonies. Ce morceau d'éloquence serait si clair et si complet que ce serait une joie pour nous de l'écouter. Dans le cas où je serais, moi, chinois, assez naïf, assez enfant pour éprouver quelques remords de conscience à l'idée d'accepter une telle direction sans posséder les qualités requises, il me serait bientôt prouvé que de pareils scrupules sont grotesques. Que dis-je? Le texte officiel me convaincrait immédiatement d'une immense vérité, à savoir que lors même que par le plus grand des hasards j'aurais quelque esprit, le mieux serait de ne m'en jamais servir. Et il serait sans doute charmant de s'entendre congédier à l'aide de ces mots délicieux. « Va, directeur, tu peux, dès à présent, manger le riz et boire le thé avec une conscience plus tranquille que jamais. » Le troisième adjoint du troisième secrétaire me remettrait alors le joli diplôme écrit en lettres d'or sur parchemin rouge. Le prince Metchersky donnerait un copieux pot de vin, et rentrant tous deux chez nous, nous nous empresserions d'éditer sur le champ le splendide premier numéro du Citoyen. Plus beau que tout numéro édité ici. Il n'y a que la Chine pour le journalisme. Je soupçonnerai toutefois, en Chine, le prince Metchersky de me jouer un tour en me bombardant directeur de son journal. Il ne me pourvoirait peut-être si gracieusement qu'à seule fin de se faire remplacer par moi, quand il s'agirait de passer à la chancellerie pour recevoir un certain nombre de coups de bambou sur les talons. En revanche, j'aurais peut-être l'avantage de n'être pas forcé, là-bas, d'écrire des articles de 12 à 14 colonnes comme ici, et j'aurais sans doute le droit d'être intelligible, chose défendue en Russie, si ce n'est au bulletin de Moscou. Maintenant, nous avons chez nous, du moins aujourd'hui, un principe tout à fait chinois. Il vaut mieux ici aussi ne pas être trop intelligent. Autrefois, par exemple, dans notre pays, l'expression « je ne comprends rien » entachait d'une réputation de bêtise celui qui s'en servait. À présent, elle fait grand honneur à celui qui l'emploie. Il suffit de prononcer les quatre mots précités d'un ton assuré, voire même fier. Un monsieur vous dira orgueilleusement « Je ne comprends rien de rien à la religion, rien de rien à la Russie, rien de rien à l'art. » Et aussitôt on le mettra sur un piédestal. Nous sommes des Chinois, si vous voulez, mais dans une Chine sans ordre. Nous commençons à peine l'œuvre que la Chine a accomplie. Nous parviendrons au même résultat, c'est certain, mais quand ? Je crois que pour en venir à accepter comme code moral les 200 volumes du livre des cérémonies, afin d'avoir le droit de ne réfléchir à rien, il nous faudra encore au moins 1000 ans de réflexions inintelligentes et désordonnées. Il est possible, cependant, que nous n'ayons qu'à laisser aller les choses sans réfléchir du tout, car dans ce pays-ci, lorsqu'il arrive qu'un homme veuille exprimer une pensée, il est abandonné de tous. Il ne lui reste plus qu'à rechercher une personne moins antipathique que la masse, à la louanger et à ne causer qu'avec elle seule, au besoin à éditer un journal pour cette personne seule. Je vais plus loin. Je soupçonne le citoyen de parler tout seul pour son propre plaisir. Et si vous consultez les médecins, ils vous diront que la manie du monologue est un signe certain de folie. Et voilà le journal que je me suis chargé d'éditer. Allons, je causerai avec moi-même pour mon propre plaisir. Advienne que pourra. De quoi parler ? De tout ce qui me frappera, de tout ce qui me fera réfléchir. Tant mieux si je trouve un lecteur, et si Dieu le veut, un contradicteur. Dans ce dernier cas, je serai forcé d'apprendre à causer, et de savoir avec qui et comment je dois causer. Je m'y appliquerai, parce que pour nous autres, littérateurs, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les contradicteurs sont de différentes espèces. On ne peut pas argumenter avec tous de la même façon. Je veux ici dire une fable que j'ai entendue ces temps derniers. On affirme que cette fable est très ancienne, et l'on ajoute qu'elle est peut-être venue de l'Inde, ce qui est très consolant. Un jour, un cochon se prit de querelle avec le lion et le provoqua en duel. En rentrant chez lui, il réfléchit et fut saisi de terreur. Tout le troupeau se réunit, délibéra et donna sa solution comme suit. « Vois-tu, cochon, tout près d'ici, il y a un trou plein d'ordures. Vas-y, vautre-toi bien là-dedans et présente-toi immédiatement après à l'endroit où le duel doit avoir lieu. » Le cochon suivit ce conseil. Le lion vint, le flaira, fit la grimace et s'en alla. Longtemps après, le cochon se vantait de ce que le lion avait eu peur et s'était sauvé au lieu d'accepter le combat. Sans doute, chez nous, il n'y a pas de lion, le climat s'y oppose. Et puis, ce serait un gibier trop majestueux pour nous. Mais remplacer un lion par un homme bien élevé, et la morale sera la même. Je veux encore vous raconter quelque chose à ce sujet. Un jour, je causais avec Herzen et lui vantais beaucoup l'une de ses propres œuvres, De l'autre rive, dont, à ma grande satisfaction, Mikhaïl Petrovitch Pogodine avait parlé en termes très flatteurs dans un excellent et très intéressant article. Le livre était écrit sous forme de conversation entre deux personnages, Herzen et un contradicteur quelconque. « Ce qui me plaît particulièrement, remarquai-je, c'est que votre contradicteur est comme vous, un homme de beaucoup d'esprit. Avouez qu'à plus d'une reprise, il vous met au pied du mur. » « Mais c'est tout le secret de l'affaire !» répliqua Herzen en riant. « Écoutez une petite histoire. Un jour, à l'époque où je vivais à Pétersbourg, Bielinski m'entraîna chez lui pour me lire un article, du reste plein de talent. C'était intitulé « Dialogue entre messieurs A et B ». Et l'article a été reproduit dans les œuvres complètes de Bielinski. Dans ce dialogue, Bielinski se montrait remarquablement intelligent et fin. Monsieur B., son contradicteur, avait un rôle moins brillant. Quand mon hôte eut terminé sa lecture, il me demanda, non sans une pointe d'anxiété, « Eh bien, qu'en penses-tu ? »
« C'est excellent !»«
Excellent !» lui répondis-je. « Et tu as su te faire voir aussi intelligent que tu l'es. Mais quel plaisir pouvais-tu avoir à perdre ton temps avec un pareil imbécile ?»
Bielinski se jeta sur le divan, enfouit son visage dans un coussin, puis s'écria en pouffant de rire
« Je suis tué ! Je suis tué !»
Chapitre 2 Les hommes d'autrefois. Cette anecdote sur Bielinski me rappelle maintenant mes premiers pas sur le terrain littéraire. Dieu sait s'il y a longtemps de cela. Je parle d'une époque plutôt triste pour moi. Mieux que de tout, je me souviens de Bielinski lors de notre rencontre à tous deux. Souvent, je me remémore à présent les hommes d'autrefois. Sans doute, parce que je suis bien forcée de fréquenter les hommes d'aujourd'hui. Je n'ai jamais, de ma vie, rencontré un être aussi enthousiaste que ce Bielinski. Herzen était tout différent. Un vrai produit de notre aristocratie. Gentilhomme russe et citoyen du monde avant tout. Il personnifiait un type humain qui n'est apparu qu'en Russie et qui ne pouvait apparaître ailleurs. Herzen n'a pas émigré volontairement. Il n'a pas inauguré l'émigration russe. Non, il est né émigrant. Tous ceux qui appartiennent chez nous à sa catégorie d'esprit sont nés comme cela, émigrants. Pendant les 150 ans de vie seigneuriale russe qui précédèrent sa naissance, bien des liens se relâchèrent entre nos patriciens et la vérité russe, le terrain russe. Pour ce qui est d'Herzen, on dirait que l'histoire elle-même lui faisait un devoir de symboliser en sa personne la rupture entre notre haute société éclairée et le vrai peuple russe. À ce point de vue, Herzen est un type historique. C'est pareil, en s'écartant de la tradition populaire, ont du même coup perdu Dieu. Les inquiets parmi eux sont devenus athées, les paresseux et les calmes indifférents. Pour le peuple russe, il n'avait que du mépris, tout en se figurant qu'il l'aimait et voulait améliorer son sort. Il n'aimait réellement en lui qu'un peuple imaginaire, idéal, tel qu'eût dû être, selon leur conception, le peuple russe. Cette plèbe idéale s'incarna pour eux, sans parti pris de leur part, dans certains représentants de la plèbe parisienne de 93. Cela était, à leurs yeux, des exemples admirables. Sans doute, Herzen devait devenir socialiste, et cela en vrai seigneur russe, c'est-à-dire sans aucune nécessité pour lui-même, sans aucun but direct, uniquement par suite du cours logique des idées et du vide de son cœur dont il souffrait dans sa patrie. Il renia les bases de la société d'autrefois. Il nia la famille. Et en même temps, il était bon père et bon époux. Il ne voulait pas entendre parler de la propriété. Toutefois, il géra bien sa fortune et sut en jouir à l'étranger. Il poussait à la révolution, au bouleversement social, mais il aimait le confortable et le calme du foyer. C'était un artiste, un penseur, un brillant écrivain, un homme extraordinairement instruit, un causeur étincelant. Il parlait encore mieux qu'il n'écrivait. Un admirable reflet de son époque. La faculté de transformer n'importe quoi en idole, de se prosterner devant, de l'adorer, et de tourner aussitôt après son dieu en dérision, était développée chez lui au plus haut degré. Sans doute, c'était un homme exceptionnel. Mais que n'était-il pas ? Écrivait-il son journal ? Publiait-il sa correspondance avec Proudhon? Montait-il à Paris sur ses barricades? Il en fait une description du plus haut comique.
Souffrait-il? Se réjouissait-il? Envoyait-il vers 1863 en Russie son appel aux révolutionnaires russes en faveur des Polonais, dont il se moquait et dont quelques centaines périrent par sa faute, comme il l'avoua plus tard avec une rare inconscience? Partout, encore et toujours, il était le gentilhomme russe, citoyen du monde, tout bonnement le produit de l'ancien servage russe qu'il haïssait et dont il avait profité. Bielenski, au contraire, n'était pas du tout un gentilhomme. Oh non ! Dieu sait de quelle famille il sortait. Tout au plus, croit-on pouvoir dire que son père était médecin militaire. Bielenski n'était pas un homme reflet. C'était un enthousiaste, et l'enthousiasme domina toute sa vie. Ma première nouvelle, Les pauvres gens, l'enthousiasma. Un an plus tard, nous nous brouillâmes pour une bêtise. Mais dès les premiers jours de notre amitié, il s'attacha à moi de tout son cœur et n'eut pas de repos qu'il ne fût arrivé à me convertir à ses croyances et incroyances. Du premier coup, il voulut me mener droit à l'athéisme. Il était admirablement apte à comprendre toutes les idées, à se reconnaître dans tous les arcanes de l'idée. Quand l'International, dans l'un de ses premiers manifestes, se proclama de prime abord la société athée, elle eut toute l'approbation de Bielenski. Mais bien qu'il appréciât avant tout la raison, la science et le réalisme, il savait pertinemment que la raison, la science et le réalisme ne peuvent à eux seuls créer qu'une fourmilière humaine et non l'harmonie sociale favorable à la vie et au vrai développement de l'homme. Il n'ignorait pas que les principes moraux sont la base de tout. Il croyait éperdument en les principes moraux sur lesquels repose le socialisme. Cependant, comme socialiste, il voulait tout d'abord le renversement du christianisme. Pour lui, la vraie révolution devait absolument commencer par l'athéisme. Il voulait comme début détruire cette religion chrétienne sur laquelle s'est appuyée l'ancienne société. Du reste, la famille, la propriété, la responsabilité humaine, il niait tout cela radicalement. Je ferai remarquer toutefois que, semblable en cela à Herzen, il était bon père et bon mari. D'autre part, il comprenait qu'en niant la responsabilité humaine, il niait par cela même la liberté. Mais il croyait fermement que, loin d'annihiler cette liberté, le socialisme la rétablirait plus réelle sur des bases nouvelles et déjà inébranlables. Bien plus qu'Herzen, qui vers la fin en douta, il avait foi en cette liberté promise. Restait toujours la splendide personnalité du Christ, contre laquelle il était bien difficile de lutter. Mais, socialiste, Bielenski était convaincu qu'il fallait détruire sa doctrine en déclarant qu'elle n'était qu'une philanthropie mensongère et ignorante condamnée par la science contemporaine. Certes, la figure même de l'homme-dieu est admirable, d'une beauté morale merveilleuse. Mais dans son enthousiasme, Bielenski ne s'arrêta même pas devant cet obstacle, comme le fait Renan, qui, dans un livre athée, La vie de Jésus, proclame que le Christ est un modèle sublime, inégalable pour la nature humaine. « Mais savez-vous, me dit un soir Bielenski d'une voix perçante, quand il s'échauffait, il parlait parfois sur le mot aigu, « savez-vous qu'il est monstrueux de notre part de nous décharger de toutes nos fautes sur un homme rédempteur, alors que le monde est ainsi fait, que nous sommes tous forcément des criminels ?» N'étions pas seuls ce soir-là. Était aussi présent un ami de Bielenski, que celui-ci estimait et écoutait beaucoup, et un tout jeune homme qui devait plus tard se faire un nom dans les lettres. « Tenez, cela me touche de le regarder !» s'écria Bielenski d'un ton furieux en me désignant. « Chaque fois que je mets en cause le Christ, ce malheureux change de visage comme s'il allait pleurer. » Et il vint se planter en face de moi. « Mais croyez-moi donc, être naïf, si votre Christ reparaissait maintenant, ce serait l'homme le plus inaperçu, le plus ordinaire qu'on pût imaginer. Il s'effondrerait devant la science moderne et tout ce qui met en mouvement l'humanité.
« Non pas !» interrompit l'ami de Bielinski.
« Pas du tout. Si le Christ revenait en ce monde, il se joindrait au mouvement et en prendrait la direction. »
« Vous avez raison !»
clama Bielinski, immédiatement conquis à cette idée. « Il nous tiendrait la main et aiderait de toutes ses forces au triomphe du socialisme. »
Les directeurs de ce mouvement auquel le Christ devait prêter un si puissant concours étaient alors presque tous des Français. Il y avait d'abord George Sand, puis Cabet, aujourd'hui si oublié, puis Pierre Leroux, et enfin Proudhon, qui commençait à peine son œuvre. Bielinski estimait tout particulièrement ces quatre-là. Fourier était déjà beaucoup moins aux côtés. Il y avait encore un Allemand que notre hôte appréciait et respectait singulièrement. C'était Feuerbach. Nous étions tous très épris aussi des idées de Strauss. Quand il pouvait exprimer ses ardentes convictions, Bielinski était le plus heureux des hommes. C'est à tort que l'on a écrit que s'il avait vécu plus longtemps, il se fût joint au mouvement slavophile. Non, si Bielinski avait atteint un âge plus avancé, il eût très probablement émigré, et on le rencontrerait aujourd'hui, petit vieillard enthousiaste, suivant les travaux des congrès allemands ou suisses, ou métamorphosé en aide de camp d'une Madame G quelconque et bataillant pour le féminisme. C'était un homme admirablement naïf, et dont la tranquillité de conscience était superbe. Parfois, cependant, il s'attristait, non qu'il connût le doute ou le désenchantement, mais pourquoi ce qu'il rêvait ne se réalisait-il pas aujourd'hui ou demain? C'était l'homme le plus pressé de la Russie. Une fois, je le rencontrai à 3 heures de l'après-midi près de l'église Namanskaya. « Je viens souvent ici, me dit-il, pour voir de combien a monté la bâtisse. » Il s'agissait de la gare des chemins de fer Nikolaïevskaya que l'on construisait alors. « J'ai du plaisir à venir regarder ce travail. Enfin, nous aurons un chemin de fer. Vous ne sauriez deviner à quel point cette pensée me réjouit. » C'était dit sincèrement, avec chaleur, et il n'y avait aucune affectation chez Bielinski. Nous fîmes un bout de chemin ensemble, et je me souviens qu'il me dit tout en marchant « Quand on m'enterrera, il se savait phtisique. » On me jugera mieux, et l'on verra ce que l'on aura perdu. » Pendant la dernière année de sa vie, je n'allais plus chez lui. Il était fâché contre moi, mais j'étais devenu un adepte passionné de ses doctrines. Un an plus tard, à Tobolsk, comme nous étions, mes compagnons d'infortune et moi, dans la cour de la prison, attendant que l'on statuât sur notre sort, les femmes des décembristes supplièrent le directeur de la maison d'arrêt de leur accorder une entrevue avec nous. Nous pûmes donc voir ces grandes martyres qui avaient suivi volontairement leur mari en Sibérie. Elles avaient tout abandonné, rang, fortune, amitié, famille. Elles avaient tout sacrifié au devoir moral le plus haut qui soit. Absolument innocentes, elles avaient, pendant des 20 et 25 années, supporter tout ce que supportaient leurs maris, les condamnés. Notre entrevue avec elles dura 1 heure. Elles nous donnèrent leur bénédiction pour la route en faisant le signe de la croix et nous offrirent à chacun, en présent, un volume des Évangiles, seul livre autorisé par l'administration pénitentiaire. L'exemplaire qui me fut remis resta 4 ans sous mon oreiller, au bagne. Je le lisais parfois, et le lisait aux autres détenus. À l'aide de ce livre, j'ai appris à lire à un forçat. Autour de moi étaient de ces hommes qui, selon la théorie de Bielinski, n'eussent jamais pu ne pas commettre les crimes qu'on leur reprochait, et qui étaient plus malheureux que les autres. Du reste, le peuple russe nomme tous les forçats les malheureux. Et 1000 fois j'ai entendu les gens nous désigner ainsi. Mais il y a peut-être une nuance entre l'idée populaire et l'idée de Bielinski.
plus semblable sans doute à celle qui dicte certains arrêts à nos jurés. Mais mes 4 années de bagne furent pour moi un long temps d'école, qui me permit de me faire une conviction en connaissance de cause. Et maintenant, je voudrais justement parler de cela.